à Rencontre Spirituelle en ce 9 avril. C'est l'anniversaire, disons, du décès de François Rabelais. C'est pas vraiment l'anniversaire de son décès, mais ça ne fait rien. C'est un personnage extrêmement important, extrêmement intéressant, très discuté. Mais vous verrez, j'ai des sources et des choses extrêmement intéressantes à vous raconter au sujet de cet homme qui a été assez longtemps franciscain, et puis qui est devenu bénédictin avec la permission de Rome, et puis qui a étudié la médecine, et puis qui est devenu particulier, qui est un très grand humaniste, un écrivain, et un croyant sérieux. C'est surprenant, hein? Vous serez étonné d'ailleurs. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Pour vous dire jusqu'à quel point cet homme est reconnu comme un grand homme, je prends un article de L'Homme Nouveau. Bon, c'est un journal très dans la bonne ligne, comme on dit. Et on y a publié il y a quelques années un article très intéressant intitulé « Quel chrétien fut Rabelais » par Yves-Alain Favre. C'était une analyse d'un ouvrage qui venait de paraître de Guy Demerson, intitulé « Rabelais » paru chez Fayard. Un ouvrage assez considérable. Et on y dit que bien des légendes entourent toujours et encore le personnage puis l'œuvre de Rabelais, comme on sait. Parce qu'il y a des gens qui confondent Rabelais avec ses personnages. Ils s'imaginent qu'il est une espèce de Gargantua ou un Pantagruel. Vous connaissez ses noms, n'est-ce pas, de ses ouvrages, ses titres de ses ouvrages. Et puis, ces gens-là voient en Rabelais une espèce de d'étrange personnage, joyeux, truculent, un libertin, un amateur de bonne chère et de bon vin. Même que Victor Hugo et l'historien très réputé au siècle dernier, Jules Michelet, le considéraient comme le chantre de toutes les aspirations assez libertines du peuple, hein. Et puis, on le considérait comme un ennemi des rois. C'est pas vrai. Un ennemi de la religion. Mais ce n'est pas vrai non plus. C'est comme un prophète. Dans la Bible, il y a des prophètes qui semblent parler contre la religion. Le Christ semble poser des gestes contre la religion, n'est-ce pas? Pensez au Jésus dans le temple. Non pas quand il a 12 ans, mais quand il est plus vieux et qu'il prêche et qu'il renverse les tables des changeurs. Et puis qu'il dit que les pharisiens sont des sépulcres blanchis, puis il dit des choses, il pose des gestes qui sont très audacieux. C'était un réformateur, et Rabelais aussi. D'autres en ont fait de Rabelais un libre penseur. Il y a même, c'est incroyable, des gens qui ont prétendu que c'était un athée hostile au christianisme. Il faut lire ses œuvres, ces gens-là n'ont pas lu ses œuvres. On dit aussi que c'est un sceptique qui joue avec les idées. Alors justement, le livre de Guy Demerson, D-E-M-E-R-S-O-N, son Rabelais, là. Mais ce livre-là restitue la vraie figure. Puis il n'est pas le seul à faire ça. C'est solidement documenté. Il nous permet de mieux connaître l'existence de Rabelais, puis de bien approfondir sa pensée. Il est en bonne compagnie. Peut-être certains d'entre vous avez-vous lu dans la belle collection « Les écrivains devant Dieu » paru chez Desclée de Brouwer, le livre d'un Anglais très spécialisé dans Rabelais. C'est curieux pour un Anglais. Crail Scheimer, c'est son nom, un nom allemand qu'il a, mais c'est un Anglais. Et cet ouvrage est extrêmement intéressant. On y lit à un moment donné « Le rire est loin d'être la même chose que la dérision ». Parce que les ouvrages de Rabelais sont réputés pour avoir le rire gras. C'était le rire de l'époque, un peu comme nous sommes tombés dans le rire gras ici au Québec actuellement. Le rire est loin d'être la même chose que la dérision, et Rabelais nous invite à un gros rire sain, S-I-N, non pas à un ricanement mesquin. Et il ajoute, l'auteur de ce livre, « Les écrivains devant Dieu », c'est Rabelais, cet ouvrage-ci, là. Séparer les hommes des hommes, séparer la religion de la vie quotidienne, faire de Dieu et de son service l'affaire du dimanche, voilà les brèches que Rabelais essaie de réparer. Nous sommes tous frères, fils d'un même père. et le pantagruélisme, qui vient du titre d'un de ses livres, Pantagruel, son premier, nous aide à renouer ces liens fraternels. Alors, il ajoute la vocation de Rabelais de nous guérir de l'angoisse par le rire, de nous rajeunir l'esprit en nous montrant, comme il écrit, l'abysme de science, de nous prêcher un évangile joyeux de charité et d'espoir. Il insiste beaucoup sur la charité. Rabelais a hérité la foi chrétienne et la sagesse antique, mais aussi la tradition familiale et locale, le patriotisme, tout ce qu'il y avait de mieux dans un Moyen-Âge qui n'était pas que ténèbres des Goths, de ténèbres suscitées par les envahisseurs Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. Puis, Krailsheimer ajoute, en transformant tout cela en une vision unique et merveilleuse, il nous a enrichi plus qu'il ne pouvait savoir, et de tous les dons qu'il nous a légués, peut-être le plus grand est-il celui que ses maîtres franciscains mettaient au-dessus de tout, Caritas, la charité. Bon chrétien ou mauvais, Rabelais parle à tous ses frères humains à travers les siècles, devant un Dieu qu'il aime et qui est, j'ouvre les guillemets, je cite Rabelais, Dieu qui l'aime et qui est le nôtre tout, avec un T majuscule. Tout ce que sommes, ou tout ce que nous sommes si vous préférez, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, tout ce que nous espérons est lui, en lui, de lui, par lui. Il a une telle foi en Dieu, une telle foi en l'Évangile, un tel attachement à la foi de son enfance, c'est un homme qui est demeuré un prêtre. Et Guy de Mersion consacre d'ailleurs la première partie de son ouvrage à exposer la vie de Rabelais. Il situe son œuvre dans cette vie. Résumons la vie de Rabelais en deux secondes. Il est né à la Devinière, c'est-à-dire un domaine près de Chinon qui appartenait à son père. C'est à 50 kilomètres de Tours. En 1494... Ben, de Mersion le fait naître en 1483, mais je crois que c'est une erreur. Presque tout le monde s'entend pour dire que c'est 11 ans plus tard, 1494. Donc, 2 ans après la découverte de l'Amérique, quoi. Et François Rabelais entre tout jeune dans un couvent de dominicains. Mais de franciscains, pardon. Ce qui exige de sa part un grand détachement, parce que son père était très, très riche. En 1521, il réside chez les franciscains de Fontenay-le-Comte, c'est en Vendée, ça, où il est ordonné prêtre. Il apprend le grec. C'est un homme studieux. Hein? C'est un prêtre très studieux. Il apprend le grec, ce qui était absolument phénoménal à l'époque. Il s'intéresse avec passion aux études anciennes. Puis de 1524 à 1526, il devient secrétaire d'un évêque, Geoffroy d'Estissac, qui était un homme très cultivé, évêque en Vendée, évêque de Maillezais, et puis il fréquente, alors, avec cet évêque, l'abbaye de Ligugé, la grande abbaye de Ligugé, dont je vous parle souvent, on en entend des chants des fois, parce qu'il y a toujours des bénédictins qui sont là. C'est la plus vieille abbaye de France, comme je vous ai souvent répété. Et puis il fréquente aussi l'université voisine de l'abbaye de Ligugé, c'est-à-dire l'université de Poitiers. Ces universités avaient une certaine importance à l'époque, un peu partout en France. Comme il veut apprendre, Rabelais, il veut apprendre la médecine puis la chirurgie, c'était interdit, ça, aux franciscains. Alors, il quitte les franciscains, il devient bénédictin, mais finalement, il quitte les bénédictins, puis il devient particulier. Et puis, il va étudier ça à Montpellier, dans le sud de la France, où il y a encore une faculté de médecine réputée. Il conquiert tous ses grades, bon, puis devient docteur en médecine, dit-on, en 1538. Et puis, entre-temps, à Lyon, il publie en 1532, donc 2 ans avant la découverte du Canada, quoi. Il écrit là son Pantagruel, à travers les aventures bouffonnes d'un géant. Dans ce livre-là, il médite sur le savoir, imaginez, il médite sur le savoir, sur la croyance, ou si vous voulez, sur la foi, et la certitude. Et évidemment que ça remet en question bien des problèmes, mais c'est beaucoup plus intéressant que certains critiques ont bien voulu le dire. faut pas oublier, quand on lit des ouvrages catholiques parus vers 1920, on voit le mépris qu'on a pour Rabelais dans certains ouvrages catholiques. C'est qu'on remettait rien en question, ou presque rien. Aujourd'hui, on est plus habitué de discuter avec le Concile, on a appris. Faut pas exagérer non plus, faut pas tomber dans les excès. Ce livre, donc, obtient très vif succès, puis lors de la découverte du Canada, 1534, Rabelais accompagne en qualité de médecin, justement, et de secrétaire, le fameux cardinal Jean du Bellay, lors de son voyage à Rome. Il publie alors Gargantua, son deuxième livre, qui compte, lui, la vie du père de Pantagruel. Alors, notre Guy de Merson, là, qui a écrit son Rabelais, montre la composition très, très soigneuse de ce livre, Gargantua, c'est très bien fait, qui dénote chez Rabelais un souci d'art. Et sous l'apparence de gros rires gras, là, un peu, il convient de chercher une pensée profonde sur la religion. Oui, une pensée profonde sur la religion, la politique, sur l'éducation aussi, sur l'économie. C'est donc des ouvrages, finalement, assez sérieux, comme vous voyez. En 1535, l'année suivante, François Rabelais se rend de nouveau à Rome, et à Ferrare, en Italie, avec le cardinal du Bellay. Et le pape Clément VII, qui l'apprécie, lui donne l'absolution pour avoir abandonné l'habit des bénédictins et l'autorise à exercer la médecine, mais en habit de particulier, quoi. Rabelais se trouve rattaché à l'abbaye bénédictine de Saint-Maur-des-Fossés. Il est rattaché à cette abbaye sans être moine. Hein? Saint-Maur-des-Fossés, c'est près de Paris. La fameuse abbaye de Saint-Maur, dont le fils de Marie de l'Incarnation, qui est morte à Québec, son fils Claude Martin, a été moine là, un moine très important, plus tard. En 1546, paraît finalement le tiers livre, c'est-à-dire son troisième ouvrage, où il traite du mariage, puis la dignité de la femme. Et dans ce livre, Panurge entreprend une longue quête pour savoir s'il doit se marier. Le personnage se demande ça. Alors, François Rabelais retourne encore à Rome et puis il publie en 1552 le Carli, le quatrième, où il soutient la politique du roi. Donc, il n'est pas contre le roi, comme certains prétendent. Puis, il vient alors d'obtenir une cure à Meudon, où il ne réside pas tellement, puis il meurt à Paris, en 1533. Alors, on peut essayer, avec l'auteur de ce livre, la Guy de Merson, essayer de définir la pensée de Rabelais. C'est un médecin éminent, Rabelais. Il unit le souci de la méthode expérimentale, on peut dire, à l'étude de l'ancienne médecine. Il s'intéresse à toutes sortes de choses, aux plantes. Il pratique une médecine vraiment pour aider les pauvres. En matière politique, Rabelais fonde sa position en s'inspirant de la Bible et des auteurs de l'Antiquité. Il écrit que le roi doit être père du peuple. Si tous les politiciens étaient pères de leur peuple, ça changerait de la surface de la terre. Il demande que les rois et les responsables soient protecteurs des faibles, qu'ils garantissent la justice vraiment, et qu'ils n'usent de la force qu'à bon escient. À travers toutes les histoires qu'il raconte, plus ou moins des opulentes, de Gargantua, se dessine toute une philosophie politique. Et comme les humanistes, les vrais chrétiens, bien, François Rabelais, n'admet que la guerre de légitime défense, puis il souhaite que s'établisse une paix fondée sur la justice et la générosité. Alors, il s'oppose ainsi à la doctrine cynique de Machiavel qu'on connaît. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure ensuite jusqu'où il va dans le domaine de la recherche de la charité et de l'amour de Dieu. Les querelles religieuses de l'époque n'ont certainement pas laissé Rabelais indifférent. C'était l'époque où il y avait, comme vous savez, la réforme protestante. Je vous ai donné des dates comme 1534. Les Luther se séparent de l'Église, quittent l'Église catholique, disons, entre 1517 et 1521. L'Angleterre devient une église autonome, l'église catholique devient une église autonome, l'église anglicane, vers 1532-33. Et alors donc, les querelles religieuses de l'époque n'ont pas laissé Rabelais indifférent, vous ai-je dit. Le développement de l'humanisme a suscité évidemment des exigences nouvelles. Beaucoup de gens ont senti la nécessité de réformes, qu'on pense aussi à Calvin. Alors Rabelais appartient à ce courant qu'inspirait Érasme. Mais il n'a jamais, jamais quitté l'Église. Je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure. Il a voulu distinguer la religion de la politique. Et c'est pour ça qu'il s'est opposé à l'activité diplomatique de Rome, qui n'était pas toujours drôle. Il s'est élevé aussi contre les superstitions religieuses qui entachaient la foi. Parce que ça dénaturait la foi. Les superstitions, c'est très malsain dans l'Église. Quand on pense qu'il y a des catholiques qui croient toutes sortes de choses, des balivernes invraisemblables, même encore aujourd'hui. Alors, il a lutté aussi contre le culte excessif des saints et des reliques. Il faut lire, à l'époque, ce que nos ancêtres croyaient au sujet des saints, c'était invraisemblable, et particulièrement des reliques, c'était épouvantable. Il s'insurge aussi contre des pratiques beaucoup plus proches de la magie que de la véritable dévotion. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est pas facile, à l'intérieur de l'Église, de lutter contre ces choses-là. Mais plus profondément, François Rabelais a attaqué les théologiens qui étouffaient la révélation de l'amour divin. On célèbre cette année, je vous l'ai dit souvent, le centenaire du décès de Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Et elle a voulu être l'amour. Elle avait un tel sens de l'amour de Dieu, l'amour divin. Cette révélation profonde qu'il a dans la Bible et dans l'Évangile. Alors lui, il s'est attaqué à ces théologiens qui écrasaient l'amour divin sous des raisonnements et, comme il dit, des ratiocinations pédantes. Rabelais veut en effet revenir à la pureté de l'Écriture, à la pureté de la Bible. Ce n'est pas des sacrifices que je veux, c'est la conversion du cœur, c'est l'amour que Dieu veut, c'est ce qu'il dit. Alors, le texte de l'Évangile, disait-il, Rabelais, doit inspirer la prière. La prière doit être inspirée de l'Évangile, c'est ce qu'il dit dans ses ouvrages. Et d'ailleurs, son personnage de Gargantua commence sa journée comment? Mais par la lecture d'une page de la Divine Écriture. Comme dit Rabelais, Divine Écriture, il l'appelle pas simplement l'Écriture, il l'appelle Divine Écriture. À partir de laquelle Gargantua s'adonnait, c'est le texte de Rabelais, s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu. C'est beau. En somme, la foi de Rabelais peut se définir comme une confiance totale en l'amour de Dieu. Ça peut surprendre bien des gens là que je dis ça. Je prends ça dans le journal L'Homme Nouveau, là. La foi de Rabelais peut se définir comme une confiance totale en l'amour de Dieu. C'est Yves-Alain Favre qui analyse l'ouvrage, je vous le rappelle, de Guy Demerson, intitulé Rabelais, paru chez Fayard, vers 1990-91. Éloigné donc des conceptions de Luther et de Calvin, bien Rabelais affirme la nécessité de coopérer avec la grâce divine, et de ne pas séparer la foi des œuvres. C'était une discussion très forte en ce temps-là. On disait que Luther disait « Pecca fortiter et crede fortius » ou je ne sais trop. En somme, tu peux pécher autant que tu veux, mais crois davantage et tu seras sauvé. Étrange chose, j'ai peine à croire qu'il ait vraiment dit ça. Et alors donc, Gargantua écrit à son fils, Pantagruel, dans les romans de Rabelais, « Il te convient de mettre en Dieu tout ton espoir et parfois formé de charité. » La foi ne suffit pas, il faut qu'elle soit formée, qu'elle soit toute animée de charité. Donc, il te convient de mettre en Dieu tout ton espoir, toute ta confiance, dirait Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, et parfois foi, par F-O-I, foi, formé de charité, être à lui adjoint, donc être uni à Dieu, en sorte que jamais n'en soit séparé par péché. C'est un très beau conseil d'un père, ce qu'il dit à son fils. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de mettre en Dieu toute ta confiance. Et puis, d'être uni à lui par la foi, toute transformée, brûlante de charité. Et ainsi, tu n'en seras jamais séparé par le péché. C'est ça qu'il dit. C'est très beau. En somme, Rabelais est un croyant respectueux de la Bible, désireux d'épurer la foi des bigoteries, mais sans révolte. Il n'est pas comme Calvin et Luther. Il n'y a pas cette révolte. Rabelais nous invite ainsi, à travers la blague, les facéties, à une réflexion personnelle qui purifie, dans tous les domaines, notre pensée. C'est donc un Rabelais tout à fait différent. Je vous rappelle donc que son père, Antoine Rabelais, vit à la fin du 15e siècle. Son père, c'est pas celui qu'on a dit, un aubergiste ou un apothicaire, c'est pas ça du tout. C'est un licencié en droit. C'est un avocat au siège de Chinon. Et puis, il est très honorable. Il est doyen des avocats. Donc, François Rabelais est né dans une famille d'hommes de loi et de gens très bien. Puis, il est pas sans fortune, comme je vous ai laissé entendre. Je vais vous expliquer jusqu'à quel point il était riche. Il est propriétaire d'une grande maison à Chinon, d'une maison de campagne, d'une métairie qui existe encore, la Devinière, où François Rabelais est né, d'un petit château et d'une maison noble à Chavigny-en-Vallée, de divers champs, de prés, puis de terres. Ses propriétés campagnardes lui avaient été apportées par sa femme. Sa femme lui a donné une fille et trois garçons, puis François Rabelais, c'est le dernier des garçons. Il est né, donc, en 1494. Et la tradition, donc, le fait venir au monde à la Devinière, dont je vous ai parlé. C'est tout près de l'abbaye bénédictine de Seuilly, dans le temps. Et ça le touche déjà dans son enfance. Et ça fait, depuis un bon bout de temps qu'il est moine, franciscain, finalement, à Fontenay-le-Comte, là, en Vendée. Et puis, en dépit de la fortune de son père, il a dû quitter ça. Et puis, il est studieux. Il est remarqué pour avoir appris toutes sortes de choses, et en particulier le grec. Mais ça lui joue un mauvais tour, et il doit quitter le monastère pour se faire bénédictin, parce que les franciscains ne reconnaissent pas l'étude de ces langues-là. Il y a un moine du couvent des franciscains qui s'appelle Pierre Ami, et c'est justement un de ses amis, qui est plus âgé que lui, et qui l'encourage. Et nous allons voir jusqu'à quel point les études vont le mener à écrire ses ouvrages, à en publier beaucoup, à devenir un intellectuel de très haut calibre et l'auteur de ses livres retentissants qui sont difficiles à lire. Ne les lisez pas dans la collection de la Pléiade. Moi, j'ai la Pléiade et c'est presque illisible. C'est dans le vieux français. Il faut avoir une traduction française en français d'aujourd'hui. C'est mieux, c'est ce que je vous conseille. Alors, nous allons écouter un peu de Josquin des Prés, la musique du temps de Rabelais. Vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles à Radio Ville-Marie. Rencontres spirituelles, une émission quotidienne diffusée en direct à 10h le matin du lundi au vendredi, 5 jours par semaine. Et c'est rediffusé le soir à 23h, dans le calme, la paix, quand le téléphone ne sonne plus. Beaucoup de gens préfèrent ça. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il est question de Rabelais aujourd'hui, qui est entré chez les franciscains. Et à cette époque, les franciscains en avaient un peu contre la culture intellectuelle. Car ça avait joué de mauvais tours à beaucoup de religieux. Et surtout, on craignait le grec, parce que le grec passait pour un, comme on dit, un idiome suspect. Et ça véhiculait, selon bien des gens, on ne sait quelle science occulte, des hérésies peut-être. Et c'est pourquoi quand la faculté de théologie de l'Université de Paris, qu'on appelait la Sorbonne, a décidé d'interdire l'étude de la langue grecque, bien les supérieurs du couvent franciscain ont confisqué les livres grecs de Rabelais et de son ami Pierre Amy, A-M-Y. Alors les deux moines ont été privés de leurs livres. On ne sait pas trop ce qui s'est passé alors, on voit seulement que le frère Pierre Amy, franciscain, se réfugie au monastère bénédictin de Saint-Mémin. M-E-S-M-I-N, hein? C'est près d'Orléans. Puis finalement, il se rend à Lyon. Après quoi, on ignore ce qui lui est arrivé. Mais le frère Rabelais, lui, je l'appelle comme ça, il était franciscain, se soumet, puis ses livres, finalement, lui sont restitués au bout de quelque temps, ce qui prouve que les franciscains étaient compréhensifs. Mais finalement, il passe ensuite chez les bénédictins, avec la permission du pape. Des bénédictiens, parce que leur ordre était reconnu comme ami des lettres. Et les lettres l'intéressaient beaucoup, la littérature. Alors, il entre à leur monastère de Saint-Pierre de Maillezais, près de Fontenay-le-Comte, justement, où il est franciscain, et dont l'abbé était l'évêque de Maillezais, Georges d'Estissac. Et alors, pour changer d'ordre, cependant, il fallait un moine la permission du pape. Il l'a obtenu, justement, à cause de cet évêque. Il l'a obtenu de Clément VII, parce que cet évêque appartenait à une famille très puissante. Et puis, il fait de Rabelais le secrétaire et apparemment le précepteur de son neveu et pupille, qui s'appelait Louis d'Estissac. Alors, Rabelais accompagne Louis d'Estissac dans ses voyages à Poitiers, à Ligugé, un peu partout. Ça lui permet de connaître le Poitou. On retrouve ça, d'ailleurs, dans son œuvre. Mais il vivait le plus souvent au monastère de Ligugé, dont l'évêque de Maillezais achevait alors la restauration. Puis où il avait fait sa résidence ordinaire, alors il était donc bénédictin à Ligugé. Mais non loin de Ligugé se trouvait un monastère de moines augustins. Et là aussi, il y avait un centre intellectuel, puis Rabelais s'y rendait avec l'autorisation. On peut croire qu'il a suivi aussi des cours à l'université de Poitiers, qui est juste voisine de Ligugé. On en parle d'ailleurs, il en parle dans son roman, on voit qu'il est très renseigné sur la vie des étudiants. Et on ne sait pas trop pourquoi il a quitté le Poitou à 34 ans, en 1528. Probablement pour se rendre à Paris. Et puis, il y loge à l'hôtel Saint-Denis, rue Saint-André-des-Arts. Ça dit quelque chose à beaucoup de gens qui sont allés à Paris, rue Saint-André-des-Arts. C'était la maison où les religieux bénédictins logeaient quand ils étaient de passage à Paris. Et puis, il a fréquenté l'Université de Paris, puis a acheté à ce moment-là son froc de moine bénédictin pour revêtir l'habit de prêtre séculier. Pourquoi, en telle circonstance, on n'est pas trop sûr, c'est probablement parce qu'il voulait devenir médecin. En tout cas, quoi qu'il en soit, en 1530, on le retrouve à Montpellier, puis il se fait immatriculer, là, au mois de septembre, et puis trois mois plus tard, six semaines seulement après l'ouverture des cours, il est déjà reçu bachelier en médecine. Mais pour obtenir une telle dispense, une chose très difficile à Montpellier, il fallait que sa réputation médicale soit déjà très grande. Il avait fait des études personnelles, mais il ne faut pas trop s'étonner, parce que la médecine, à l'époque, c'était une branche des humanités, chose étrange. On n'avait pas idée de fonder la médecine sur l'observation des faits. On croyait qu'elle était tout entière dans les ouvrages des anciens. Il ne s'agissait pas d'autre chose que de déchiffrer les textes anciens, puis de les comprendre. Alors donc, bachelier, François Rabelais était obligé de faire un cours public, il en a fait un, et puis il a fait sensation, et puis c'était un homme de très grande culture, il part bientôt de Montpellier, s'en prend ses autres grades. En 1532, il est à Lyon, c'était comme une espèce de capitale des lettres et de la littérature, quoi. Il publie des tas de travaux savants, c'est surprenant tout ce qu'il a publié, qui ont dû mettre le sceau à sa réputation, parce que le 1er novembre 1532, déjà, il est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié, du Pont du Rhône, à Lyon. Puis en même temps, il écrit à Érasme une lettre pleine de vénération que nous avons. Puis il se lie avec beaucoup d'autres intellectuels. Mais son poste de médecin de l'hôpital ne lui rapporte que 40 livres par année. Ses travaux savants, très peu aussi, et pas riche. Alors un jour, en lisant un hein, ouvrage assez populaire qu'on achetait dans les foires, ça s'appelait « Les grandes chroniques du grand et énorme géant Gargantua », mais il songe que peut-être il s'est vendu plus d'exemplaires en 2 mois de cet ouvrage qu'il ne sera acheté de Bible en 9 ans, c'est ce qu'il écrit, et qu'il écrirait sans grand-peine un ouvrage dans le même genre. Il va prendre pour héros le fils du même Gargantua, qui vient d'avoir tant de succès, et voilà comment naît son Pantagruel. Et pourquoi Pantagruel? Bien, dans les mystères dont on donnait de grandes représentations populaires, Pantagruel était un petit diable marin qui avait pour spécialité de jeter du sel dans la bouche des ivrognes et qui personnifiait la soif. Or, la soif était d'actualité en cette année 1532. Il y avait une sécheresse extraordinaire qui avait régné pendant 6 mois. Mais pourquoi ce petit diable marin? Ben, Rabelais en fait-il un géant? Pourquoi il en fait un géant? C'est que les géants étaient, à cette époque, avec les saints, comme Saint-Martin, dont je vous ai parlé le 11 novembre, les principaux héros du folklore du monde dans ce temps-là. Et le peuple ne se lassait pas de lire les récits de leur appétit ou de leur soif prodigieuse, ni d'apprendre comment ces géants avaient créé par mégarde en marchant ou en s'asseyant ou en frappant ou en jetant un de leurs objets familiers par terre, mais créaient des ravins, des précipices, des fleuves, des montagnes, même près une cathédrale. On peut construire une cathédrale en un clin d'œil. C'est pourquoi Pantagruel est devenu géant, pour plaire au gros public, comme Gargantua, hein, qui va écrire plus tard. Alors, les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, c'est le titre, furent édités, très probablement mis en vente à Lyon en novembre 1532. Et bien entendu, un savant médecin ne pouvait pas écrire son nom là-dessus, alors il a pris les lettres de son nom, François Rabelais, puis il en a fait Alcofribas Nazière, c'est un anagramme. Alors, il publie des almanachs aussi. Sur ces entrefaites, il y a un nouveau protecteur que Rabelais avait su se faire, bien plus puissant que l'évêque de Maillezais, c'est Jean du Bellay, l'évêque de Paris, il va devenir cardinal, et qui part pour Rome, parce que le roi avait chargé l'évêque Jean du Bellay d'obtenir du pape, saviez-vous ça, d'obtenir du pape qu'il suspende l'excommunication d'Henri VIII d'Angleterre. Alors, l'évêque Jean du Bellay propose à Rabelais de le prendre avec lui, probablement comme médecin. Alors, il se rend donc en Italie, ce cher Rabelais. Il lâche son poste à l'hôpital. Et arrivé à Rome, dans la seconde quinzaine de janvier 1534, il va y rester jusqu'au début d'avril. Là, il voulait converser avec les savants, examiner les plantes, les drogues et tout ça. Puis, en mai 1534, il a repris son service à l'Hôtel Dieu. Il soigne les malades. Et la même année paraît son fameux Gargantua, à l'occasion encore d'une foire en novembre, comme l'autre année Pantagruel, en 1532, 2 ans plus tôt. Et c'était pas une suite de Pantagruel. L'auteur se borne à faire de son nouveau héros le père de l'ancien, voilà tout. Ce n'est qu'après coup qu'on s'est habitué à considérer les 5 livres comme un seul roman, et puis le lien qui les rattache, c'est peut-être plus large que celui qui unit les divers romans de la comédie humaine de Balzac, puis d'autres séries comme ça. Rabelais ne vise que le gros public, il cherche à faire un succès de vente, il a besoin d'argent, mais il veut aussi enseigner en même temps. Et on l'aurait étonné si on lui avait dit que tous ces volumes se seraient devenus des best-sellers, comme on dit. Il avait rassemblé dans ses 2 livres, Pantagruel et Gargantua, tout ce qui devait plaire au peuple. Et puis, il y a des calembours, des facéties un peu salées. Il se plaît dans des détails. Il y a des explications légendaires de faits géographiques ou historiques. C'est pas facile à lire, hein? Il employait un style parlé, c'était rare à l'époque, c'était peut-être même le premier qui utilisait ça. Et c'est peut-être une des causes essentielles de son immense succès. Il avait pris un ton oral, le ton des conteurs des veillées paysannes. Or, dans la littérature française, il ne reste rien de ces conteurs. Ça n'a pas été écrit, ces choses-là. Alors, dans ses deux premiers livres, Rabelais ne pouvait s'empêcher d'être lui-même, hein? Un homme passionné par la vie, c'est-à-dire par les idées autant que par les êtres humains. Parce que pour lui, la vie est nourrie d'idées. Ce qu'il comptait dans ce style, disons paysan, avec une verve un peu épaisse, mais merveilleuse, là. Et puis tout ce lyrisme, c'était des souvenirs d'enfance et de jeunesse, romancés d'abord, puis ce qu'il avait vu au couvent, dans les universités. Alors on verra aussi que Rabelais faisait dans Pantagruel, comme dans Gargantua, une satire terriblement joyeuse de l'éducation traditionnelle. Il faisait une satire aussi de l'université, c'est-à-dire de la Sorbonne. Or, peu avant qu'il ait publié son livre, en octobre 1533, pendant la nuit du 17 au 18 octobre, des placards, c'est-à-dire des affiches, contre la messe, contre le pape, contre les cardinaux, avaient été affichés dans Paris, puis aussi dans la ville d'Amboise, jusque sur la porte de la chambre du roi qui logeait à Amboise. Cette action extrêmement maladroite de la part de certaines personnes venait probablement d'agents provocateurs contre Rabelais. Ça soulevait de toute façon de grandes colères. L'université de la Sorbonne a été autorisée à sévir contre l'hérésie. Et Rabelais était averti. Peut-être qu'il risquait d'être inquiété d'ailleurs. Alors il a eu peur, il a quitté Lyon le 13 février sans même prendre congé des administrateurs de son hôpital. Et l'on suppose qu'il s'est réfugié auprès de son protecteur, l'évêque de Maillezais. Et là-dessus, bien, le Jean du Bellay, qui avait été nommé cardinal, décide de se rendre à Rome. Hein? Puis là, la persécution s'était calmée au printemps de 1534, et Rabelais le rejoint à Lyon, a passé avec lui quelque temps en Italie, comme je l'ai dit plus tôt, à Ferrare, où il a rencontré Clément Marot. Puis il a atteint Rome, où il a demeuré 7 mois, il a profité des hautes protections, comme je vous ai dit, puis il a obtenu l'absolution d'avoir jeté costume de bénédictin, puis d'avoir revêtu l'habit de prêtre séculier. Je vous avais signalé ça. Alors, au début de mai 1536, il rejoint le cardinal du Bellay à Lyon, et celui-ci étant abbé du monastère bénédictin de Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, là. Alors, depuis longtemps, on travaillait à obtenir du pape la sécularisation de cette abbaye, sa transformation dans une collégiale de chanoines, c'est peut-être ça qui a entraîné Rabelais à parler de l'abbaye de Thélème, hein? Puis vous connaissez probablement ça, j'ai pas le temps de vous en parler malheureusement. Une espèce de rêve, hein, d'une abbaye où le motto serait « Fais ce que tu veux ». Belle abbaye, hein? Il n'y aurait eu que des laïcs là-dedans, j'imagine. De toute façon, soyons sérieux. Alors, le cardinal du Bellay fait entrer Rabelais dans cette collégiale de chanoines, mais ça va pas tellement bien. Puis il retourne à Montpellier, prend ses derniers grades de médecin. Il est médecin célèbre. Hein? Il est bientôt licencié, puis docteur, 6 semaines après. Il devient donc docteur en médecine. Il y avait longtemps qu'il se donnait d'ailleurs ce titre. Oh, il se donnait le titre de docteur. On voit ça des fois à Montréal, des gens qui se donnent des titres de docteur. Faut faire attention. Alors, il y avait longtemps, donc, il s'appelait, faisait nommer le docteur, puis à l'été, il revient à Lyon, où il fait une leçon d'anatomie sur un cadavre de pendu. C'était exceptionnel, ça. Il fait à Montpellier, à l'automne, le cours public, qui était d'obligation pour les nouveaux docteurs. Il s'explique sur le texte grec des pronostics d'Hippocrate, hein, d'Hippocrate, le père de la médecine. Je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'il était très savant, hein. Il avait, vers cette époque, un fils naturel, cependant, qui s'appelait Théodule, qui est mort à 2 ans. Il y avait des prélats de Rome qui s'intéressaient à cet enfant, et qui s'en sont occupés. C'est là qu'on voit qu'il était un peu déchu comme prêtre. Mais ça se voyait à l'époque, c'est dommage. Mais il était croyant quand même. Et vous allez voir, il va mourir presque comme un franciscain. Et il a donné à Lyon une édition de Gargantua et de Pantagruel qui est reproduite dans la collection de la Pléiade. C'est celle-là que j'ai en main, 66, l'édition définitive de Rabelais. C'est le dernier texte qu'il a corrigé, celui qu'il a arrêté définitivement. Il a coupé partout, d'ailleurs, des mots dangereux. Il a remplacé ceux, mettons, de théologien, de sorbonicole, à cause de la Sorbonne, de sorbonagre, toujours à cause de la Sorbonne, etc., par celui de sophiste. En tout cas, il faut savoir que, depuis la fin de 1538, le roi avait changé de politique à l'égard des réformés, des protestants, là. Puis, il réprimait maintenant avec dureté. Or, Rabelais n'avait pas la vocation pour le martyr, craignait de passer pour un réformé, ce qui n'était pas du tout, et il n'entendait soutenir ses opinions, dit-il, que jusqu'au feu exclusivement. Il voulait pas être brûlé. Et il veut pas être brûlé par le roi qui devient dur à l'égard des réformés, les protestants. Alors, dans ses écrits, il fait l'éloge de la politique royale, il la sert même de son mieux. C'était tout à fait démontré, c'est irréfutable qu'il a pris cette position-là. De toute façon, il ne veut pas du tout de schisme dans l'Église, il veut la réforme à l'intérieur de l'Église. Ça rappelle le beau livre de Congar, « Vraie ou fausse réforme dans l'Église ». Et le 2 mars 1543, bien voilà, Gargantua et Pantagruel condamnés par la Sorbonne. Alors l'évêque, ami de Rabelais, Geoffroy de Sissac, meurt. Et sans doute Rabelais, pardon, appartient encore à la famille des Dubélé, au cardinal Dubélé, car il faut qu'il ait des protecteurs, hein, pour que la condamnation de ces deux livres reste sans effet, et qu'il obtienne, en 2 ans plus tard, en 1545, un privilège pour son tiers livre, son troisième, publié à Paris en 1546. Alors, il a besoin d'argent encore, et pour en gagner, ben, il n'a plus besoin de faire de si grandes concessions au goût populaire. Alors, le tiers-livre est d'un caractère un peu moins plébéien, comme on pourrait dire, un peu moins populaire que les deux premiers, Pantagruel et Gargantua. Et les trois quarts du temps, mais Rabelais oublie même totalement que son héros est un géant. Il oublie ça. Mais quel étalage d'érudition il y a dans ce livre. Et le comique qu'il en tire est certainement d'un ordre beaucoup plus recherché. Mais c'est moins savoureux aussi, ça faisait moins rire le monde. Parce que, depuis 13 ans qu'apparut Gargantua, les éditions de son œuvre se sont multipliées, leur auteur est devenu célèbre, dans le tiers-livre, 40 chapitres sur 52 sont consacrés à examiner quoi? La question de savoir si Panurge doit se marier. Autrement dit, que vaut le mariage? Que valent les femmes? Mais encore que le tiers-livre a été dédié à la reine de Navarre, la Sorbonne n'y fut pas attaquée, l'ouvrage était poursuivi et condamné encore, mais Rabelais a dû s'enfuir. Rabelais est bientôt nommé médecin de la ville de Metz. Et puis il gagne 120 livres par an. C'est mieux que 40 comme autrefois. Pourtant, il fallait, pour vivre, demander de l'aide du cardinal Dubélé. Et là-dessus, François Ier meurt. Alors là, Dubélé est envoyé à Rome avec autorité sur les cardinaux du parti français. Alors en juillet 1547, il part avec François Rabelais. Puis finalement, bien, on arrive près de la mort, là, de François Rabelais. En février 1552, il y a le quart livre qu'il publie, le quatrième, qui se présente nettement comme la suite du tiers livre. On parlait beaucoup à ce moment-là de la découverte du Canada par Jacques Cartier, en 1534. Et puis on parlait d'un passage du Nord-Ouest qui devait permettre d'atteindre le Cathay, c'est-à-dire un royaume fabuleux de l'Extrême-Orient, par le nord de l'Amérique. Mais les bateaux se perdaient dans les glaces, on le sait. Hein. Et les récits de voyage étaient en pleine vogue. Alors Rabelais a compté sur la navigation de Pantagruel. Et Pantagruel est en quête de la dive bouteille. C'est de là que vient l'expression dive bouteille, avec un D majuscule puis un B majuscule, où devait se trouver la réponse à l'enquête de Panurge sur le mariage. Ça rappelle des petites cassettes qu'on donne aux jeunes là, pour travailler sur leurs petits appareils électroniques avec la télévision. Et l'auteur était fort bien renseigné sur la navigation en Méditerranée, puis sur la géographie de l'Atlantique du Nord, c'est surprenant. et l'itinéraire, les escales qu'il prête à son héros peuvent être reconnus sur les cartes du temps. Mais toutes ces îles sont en même temps allégoriques. On trouve l'occasion de 1000 satires nouvelles, notamment de la cour de Rome, hein, qui était terrible, la cour de Rome à l'époque. Et on ne peut pas le blâmer de s'en être moqué, c'est pas moi en tous les cas qui le blâmerai. Il faut donc se rappeler que cet homme est devenu un médecin solide, que c'était un prêtre convaincu, que l'esprit franciscain qui l'animait à la fin de sa vie lui a permis de vivre plus simplement. Et dans un ouvrage publié par quelqu'un que je connais bien, Michel Ragon, que j'ai déjà interviewé, que j'ai reçu chez moi, Michel Ragon, qui est très connu pour ses romans sur la Vendée, que j'ai donc aimé son livre « L'accent de ma mère », et puis « Ma sœur aux yeux d'Asie », et il dit livre très intéressant, est un spécialiste de l'histoire de l'art, de l'architecture, mais il a écrit un Rabelais très très intéressant qu'il a appelé le roman de Rabelais, mais c'est un spécialiste de Rabelais très intelligent. Et puis, il nous rappelle que beaucoup de gens ont oublié qu'il était prêtre, et un prêtre assez convaincu quand même, hein? Et on le voit bien dans ses écrits, que c'était un homme, Rabelais, qui était lié à toutes sortes de gens très très importants. Et comme les Dubélé, auxquels il était assez allié, eh bien, mais qui étaient des disciples d'Érasme, des évangélistes humanistes qui n'ont jamais rompu avec l'Église, mais il était comme eux. Puis, donc, à l'inverse de ceux qui sont devenus protestants, ces gens-là, les Dubélé comme Rabelais, pensaient que la réforme de l'Église était indispensable, mais elle devait se faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, hein, que l'Église devait se réévangéliser. C'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui encore. Et se fortifier au contact de l'humanisme. Et voilà pourquoi il y avait des liens entre eux, ça les rapprochait. Rabelais a exercé une grande influence sur Calvin, mais, qu'il avait connu lorsque ce dernier était étudiant à Orléans. Et il lui fait découvrir Sénèque notamment, mais Calvin était déjà évangéliste. Et c'est Rabelais qui l'a poussé dans cette idée qui était la sienne de fortifier l'évangélisme par l'humanisme antique. Et lorsque Rabelais publie Pantagruel, ben Calvin s'enthousiasme pour ce livre, qui est libérateur à son avis, mais lorsque Calvin, réfugié à Genève, devient antipapiste, lorsqu'il allume des bûchers, ben Rabelais, opposé à l'intolérance sous toutes ses formes, se dresse contre Calvin. Alors à son tour, Calvin rejette Rabelais, puis l'accuse d'athéisme, imaginez, c'est de là que ça part, ces accusations. Et c'est insensé. Alors, il faut se rappeler, et c'est ça que je voudrais insister là-dessus, que ce qui frappe, c'est l'intolérance qui reprend aujourd'hui de la vigueur, un peu partout dans le monde. On le voit, l'intolérance. Et je crois que le livre de Michel Ragon nous présente un homme, mais qui n'est pas intolérant, et qui lutte contre l'intolérance. On peut dire que Ignace de Loyola, à la même époque, était nourri d'idées très voisines de celles de Rabelais. Cette idée de réforme de l'Église, de Saint-Ignace de Loyola, se fonde sur un mélange d'évangélisme et d'humanisme. La même chose. Mais tous deux, là encore, veulent réformer l'Église, mais l'un veut la réformer de l'intérieur, puis l'autre veut la prendre en main. Alors, c'est le point de vue de Loyola qui l'emporte. De la même manière que le point de vue de Ronsard l'a emporté en littérature. Alors, je vous laisse là-dessus sur ce cher Rabelais, qui demeure quand même un homme intéressant. Et je reprends l'antienne d'ouverture de la messe aujourd'hui. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie, et sur mes lèvres, la joie chantera Alléluia. C'est ce qu'il enseignait dans ses livres, Rabelais, qu'il fallait prier et chanter la louange de Dieu. Oui, oui.